Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau et bienvenue sur cette série de balado-diffusion portant sur le traitement du sommeil. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Marie-Hélène Geoffroy, qui est médecin et qui s'intéresse énormément au traitement et de la prise en charge du sommeil. Pour nos auditeurs, pourriez-vous vous présenter, Marie-Hélène, et dire pourquoi votre intérêt en sommeil?
Oui, bon, je suis Marie-Hélène Geoffroy. Ça fait une quinzaine d'années que je suis médecin de famille. Je travaille à Montréal en médecine familiale en bureau. Et mon intérêt pour le sommeil vient du fait que j'ai beaucoup de travail en santé mentale. Et beaucoup de mes patients ont des problèmes à dormir. Et tranquillement, je me suis intéressée de plus en plus au sommeil. Et me voilà aujourd'hui. Je peux pas dire que je suis une experte, mais j'ai quand même des réponses à plusieurs questions par rapport au sommeil.
Et donc, vous êtes une femme d'expérience. Alors, un peu, pas mal.
Je ne sais pas si on peut dire ça.
Alors, bonjour. Alors, première question concernant le lamborexant. C'est un nouveau médicament qu'on appelle, qui est commercialisé sous le nom de Dévigo, pour ceux qui ne connaisseraient pas le nom générique. Peut-être pouvez-vous nous dire comment il devait être dosé et en combien de temps combien de temps qu'on peut concevoir que ça fait un essai valable pour ce médicament?
Oui. Premièrement, on devrait toujours commencer à la plus petite dose, le lamborexant, donc à 5 mg. 5 mg une fois par jour, au coucher, puis je dis bien au coucher, puis il faut avoir 7 heures devant nous avant de se réveiller. Donc, les patients, des fois, qui se réveillent dans le milieu de la nuit, c'est pas une bonne idée s'ils veulent se lever, par exemple, s'il y a 2 heures du matin, ils se réveillent. Puis ils se disent, moi, faut que je me lève à 7 heures. Il n'y a pas 7 heures devant eux. Donc, on prend pas le lamborexant dans le milieu de la nuit, mais vraiment au coucher. Qu'on ait un problème pour s'endormir ou qu'on se réveille dans le milieu de la nuit, c'est vraiment au coucher qu'il faut le prendre. Donc, 5 mg au départ. Et la dose peut être augmentée jusqu'à peu près 10 mg en fonction de la réponse du patient et de la tolérabilité. Il est important quand même d'accorder au lamborexant une période d'essai, je dirais un 7 à 10 jours, parce que des fois, on voit une amélioration quand même là après plus d'une journée. Là, on le voit même très bien dans les études. Donc, si l'insomnie persiste après 7 à 10 jours de traitement à 10 mg, à ce moment-là, je pense que c'est important de réévaluer les comorbidités et les autres causes là, de l'insomnie.
On sait qu'un des effets secondaires, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, certains de nos patients nous rappellent des rêves vifs. Alors, comment préparez-vous les patients à cette éventualité avec le lamborexant?
Oui, on voit ça. Puis pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est des rêves vifs? C'est des rêves qui sont un peu plus intenses, peut-être plus réalistes, plus réels que les rêves habituels. Donc, je discute des rêves vifs avec mes patients en même temps que je parle des autres effets secondaires potentiels du lamborexant. Ce que je fais, je leur explique la fréquence et l'intensité des rêves vifs peut varier d'une personne à l'autre. Donc, il y a certains patients qui n'en auront pas du tout de ces rêves-là. Ils vont rêver comme d'habitude. Mais il y en a d'autres qui peuvent le ressentir d'une manière plus importante ou d'avoir des rêves plus fréquents. Ce qui est important qu'ils comprennent, c'est que c'est un effet secondaire comme toutes les autres et ce n'est pas dangereux. Et que la plupart du temps, ça a une durée qui est temporaire. Donc, de continuer la médication et normalement, avec le temps, le corps va s'adapter à la médication.
Un des problèmes qu'on a avec nos patients, surtout peut-être les premiers chez qui on va introduire le lamborexant, c'est qu'ils ont une attente quand même importante. Ils ont essayé déjà d'autres médicaments pour le sommeil avec peut-être pas des résultats parfaits. Comment préparez-vous les patients à ce nouveau médicament puis comment vous jugulez leurs attentes ou les orienter pour un meilleur résultat?
Oui, la première chose, je commence toujours par expliquer que le lamborexant, c'est une nouvelle molécule qui fonctionne de manière un peu unique ou différente par rapport à tous les autres médicaments du sommeil qui ont peut-être essayé dans le passé. Fait que je leur conseille de garder l'esprit ouvert, de ne pas avoir d'idées préconçues. Puis aussi, il faut comprendre que lorsqu'ils s'endorment avec le lamborexant, ils peuvent ressentir des sensations différentes de celles qu'ils ont pu expérimenter avec les autres médications pour le sommeil. Puis ça s'explique encore par le fait que le lamborexant agit sur le cerveau d'une manière complètement différente par rapport aux médicaments classiques pour le sommeil. Donc, contrairement à ces médicaments-là, donc les médicaments classiques, ça crée comme une espèce d'effet de sédation. associé à une sensation de légère somnolence, alors que le lamborexant, lui, aide le cerveau à passer du mode, je pourrais dire, réveillé et actif de la journée au mode de sommeil. Donc, quand les patients vont prendre le lamborexant, ils vont comme sentir une transition plus naturelle vers le sommeil, sans les effets de sédation qui sont associés aux autres médicaments. Puis souvent, les effets de sédation, c'est ce que les patients pensent qu'il est normal de ressentir. Donc, en gros, je leur dis que ça va être différent, puis je les encourage à garder l'esprit ouvert avec une nouvelle médication qui va les aider avec moins d'effets secondaires.
Quand on parle de médicaments pour sommeil, il faut parler aux autres des autres médicaments qui font partie un peu de la pharmacopée de notre patient. En dehors des narcoleptiques ou autres narcoleptiques, est-ce qu'il y a des patients pour lesquels je ne devrais pas prescrire du lamborexant?
Oui. Donc, comme vous venez de le dire, faut vraiment pas prescrire le lamborexant chez les patients avec narcolepsie. Il y a pas beaucoup d'autres contre-indications. Je pourrais juste mentionner, donc, chez les femmes enceintes ou qui allaitent, il y a quelques études présentement, mais pas assez pour qu'on le recommande. Puis on sait très bien que la médication passe dans le lait maternel. Donc, c'est pas une bonne idée d'en prescrire aux femmes enceintes ou qui allaitent. Aussi, Santé Canada n'a pas de données chez les adolescents de moins de 18 ans parce qu'il n'y a pas eu d'études, donc on ne le prescrit pas chez nos patients de 18 ans et moins. Et aussi, peut-être plus rare, mais on en a quand même chez les patients qui ont une insuffisance hépatique sévère, là, le Child PCC, donc c'est contre-indiqué de le prescrire parce qu'il y a une différence hépatique majoritaire là, du lamborexant.
Est-ce qu'il y a des médicaments à lesquels on ne devrait pas associer le lamborexant?
Il faut faire attention à plusieurs interactions pharmaceutiques là, avec le cytochrome P34A. Il y a certains médicaments en cardiologie, si je me trompe pas, le Plavix, faire attention. À ce moment-là, moi, je vous référerais plus aux pharmaciens parce que la liste peut être longue. Souvent, les médicaments, les interactions vont faire en sorte que ça va augmenter ou diminuer l'effet de la médication qu'on consomme ou, au contraire, diminuer ou augmenter l'effet du lamborexant. Donc, dans le contexte qu'on a une diminution de l'effet du lamborexant, ça me dérange un peu moins. C'est juste que je vais avoir tendance à prescrire une dose un peu plus élevée. Mais quand donc, il faut vraiment voir d'une médication à l'autre là, quelles sont les interactions particulières. Peut-être faire affaire à attention avec
le 3-4.
Oui. Ben c'est ça le cytochrome que je vous ai nommé.
Donc mon petit conseil d'éditorialiste, c'est peut-être les premières fois de vérifier les interactions médicamenteuses principales. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez des doutes, parlez à votre pharmacien. Mais c'est un médicament quand même qui est assez facile à prescrire. Il y a une autre chose qui affecte beaucoup les patients, c'est le poids. Beaucoup de nos jeunes patients plongés ont peur de prendre du poids avec les médicaments ou d'en perdre parfois. Est-ce que ça affecte le poids?
Pas du tout. Donc, ça affecte pas beaucoup. Comme je vous dis, il y a peu de contre-indications et il y a peu d'effets secondaires. Évidemment, certaines personnes peuvent avoir de la fatigue le matin si la dose pour eux a été un peu trop forte, mais c'est lamborexant a vraiment un bon profil de tolérabilité avec peu d'effets secondaires. J'ai d'ailleurs révisé avant ce podcast, puis j'étais quand même assez étonnée de peu d'effets secondaires rapportés. La chose, par contre, on n'est pas vraiment dans les effets secondaires, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Il faut vraiment faire attention avec la consommation concomitante d'alcool. Parce que ça va vraiment augmenter la concentration du lamborexant dans le sang, ce qui peut augmenter les 10 effets secondaires.
Là. Donc, une chose qui nous surprend, qui m'a surpris beaucoup, j'avais de la difficulté à le croire lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce médicament-là. J'avais résumé lors du premier podcast pourquoi je m'étais intéressé au sommeil, parce qu'on n'a pas de médecin de famille dans nos vies beaucoup pour nos patients. Mais c'est le peu d'effets secondaires le matin pour nos patients âgés. Puis pourtant, c'est un médicament qui a une demi-vie de 17 heures. Là, moi, c'est un paradoxe que j'ai de la misère à comprendre.
Effectivement, c'est un petit peu compliqué. En espérant que je vais essayer de donner une bonne définition. Donc d'abord, je pense que pour comprendre, il faut faire la différence entre demi-vie d'un médicament et durée d'action. Donc, la demi-vie d'un médicament, c'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique de notre médicament soit réduite de moitié. Donc, elle représente un peu la vitesse à laquelle le médicament va être éliminé de notre corps. Tandis que la durée d'action d'un médicament, ça se réfère à la période pendant laquelle le médicament produit ses effets bénéfiques, donc thérapeutiques. Dans le contexte du Dévigo, ben, on parle du sommeil. Puis la durée d'action peut être plus courte, plus longue ou égale à la demi-vie. Ça, ça va dépendre des fonctions et des caractéristiques spécifiques de notre médicament. Fait que si on pense à notre lamborexant, comme vous disiez, effectivement, demi-vie de 17 heures, mais on a une durée d'action de 7 à 8 heures. Donc, le patient, le soir, avant de se coucher, va prendre son comprimé, puis en 15 à 20 minutes, le lamborexant va aller bloquer les récepteurs de l'orexine au cerveau et permettre le sommeil. Cet effet-là, donc les bloqueurs des récepteurs vont rester attachés aux récepteurs de l'orexine environ pendant 7 à 8 heures. Puis ensuite, le matin, les orexines naturelles ou endogènes vont rentrer en compétition avec le lamborexant et le déloger des récepteurs, qui va permettre l'éveil, on pourrait dire, un peu naturel. Est-ce que c'est assez clair?
Oui, c'est très clair, mais quand on ne pense pas à ce sujet-là fréquemment, je pense que c'est un paradoxe que vous venez nous éclaircir. Il y a souvent des patients qui prennent d'autres médicaments pour le sommeil qui ont beaucoup d'effets secondaires. Je pense à des patients âgés, accumulation, somnolence, confusion, mais quand même, ils ne veulent pas changer de médicament. Nous, on pense parfois au lamborexant comme une meilleure option. Comment, dans votre truc de médecin d'expérience, vous approchez ces patients-là pour les convaincre de tenter autre chose?
Ouais, c'est pas tout le temps évident, mais je pense qu'il est important au départ de comprendre pourquoi notre patient est hésitant. Parce que, tu sais, les patients qui ont de l'insomnie, ça peut devenir très anxiogène de faire un changement. Surtout s'ils ont souffert d'insomnie chronique puis ils disent, ben, regarde, je dors pas si mal présentement. Donc, de quoi les patients ont peur la majorité du temps? Ils ont peur que la médication fonctionne pas aussi bien de ce qu'ils ont. Ils ont peur des effets secondaires nouveaux. Fait que la première chose que je fais toujours, c'est de m'informer c'est quoi leur crainte. Puis de leur donner de l'information nécessaire pour les rassurer. Ensuite, par rapport au lamborexant, ce que je leur dis, c'est que c'est le seul médicament pour le sommeil qui est indiqué à long terme. Puis en insomnie chronique, ben on a souvent besoin d'une molécule à long terme. Parce que ça, c'est très important de comprendre que la majorité des autres médicaments pour le sommeil qu'on utilise ont une indication formelle maximale de 28 jours. Puis bon, ben moi, la première, on prescrit souvent beaucoup plus que 28 jours maximal pour ces molécules-là. Puis aussi, ce qui rassure beaucoup les patients, c'est que je leur dis que le lamborexant n'est pas du genre à créer une accoutumance, donc pas de dépendance ni de tolérance à long terme à craindre. Et aussi, ben évidemment, chaque patient est différent, donc mon approche va varier en fonction du patient. Chez les patients qui ont 65 ans et plus, je leur mentionne que la plupart des médicaments qui sont utilisés présentement pour traiter l'insomnie, ben ils sont vraiment pas recommandés chez les patients de 65 ans et plus. Tandis que le lamborexant, puis donc des fois c'est une des raisons pour laquelle je leur propose le lamborexant, ça offre une option qui n'a aucune restriction d'âge. Fait que la plupart du temps, 65 ans et plus, c'est pertinent à ajouter. Et d'autres patients, je pourrais donner un exemple d'un camionneur, je leur dis que ben on a des études de conduite sur la route de longue distance qui montrent que le lamborexant n'a pas altéré la performance de conduite le lendemain matin. Donc, dépendamment de mon patient, je regarde les craintes, puis après ça, j'essaie de donner peut-être des petites informations qui sont plus reliées là, au profil de mon patient.
Bien, merci. Je pense que je vais retenir certains de vos conseils pour mes prochains patients. Moi, ce qui m'a convaincu du lamborexant, c'est les problèmes que j'ai avec les benzos ou les aides-drogues avec des effets secondaires. Puis évidemment, je voudrais les arrêter, mais je ne veux pas provoquer de l'insomnie, aggraver le problème du patient, puis je veux passer d'un médicament à l'autre. Pouvez-vous nous parler de la transition benzo ou Z-drogue vers le lamborexant? Comment on peut procéder pour réduire la dose des premiers médicaments initiés?
Oui. Ça, c'est quelque chose qui est important de bien comprendre. C'est sûr que j'en profite tout le temps quand que je veux faire ce changement-là, de prendre le temps avec les patients, là, un petit 5 minutes, de réviser c'est quoi les bonnes habitudes de sommeil, l'hygiène de sommeil, en disant que ça fait partie du traitement en plus des changements de médicaments qu'on va faire. Donc, quand j'initie l'lamborexant, ben il n'y a pas vraiment de recette ou de méthode unique. Ça dépend vraiment de mon patient, de son historique d'insomnie, de la médication qu'il prend, puis de bien d'autres facteurs. Fait qu'en général, j'opte pour une espèce d'approche qui est progressive, croisée, puis si je dis en bon français, là, un switch. Donc, j'y vais doucement, en douceur, j'introduis le lamborexant à 5 mg, tout en réduisant graduellement la dose du benzodiazépine ou du V-drug, médicament Z, que je vais dire, que le patient souvent prend depuis longtemps. J'attends 7 à 10 jours, donc pour voir quelle est la réponse, quelle est la tolérabilité du patient. Puis selon, en général, il y a 2 scénarios qui sont possibles quand je revois mon patient. Scénario numéro 1, réponse favorable avec le lamborex 105 mg. Donc là, je peux envisager arrêter progressivement la médication qui reste, donc le benzo ou le Z-drug, tout en maintenant mon lamborex 105 mg. Mais donc, scénario numéro 2, donc des fois la réponse est encourageante, mais ça nécessite un petit peu plus d'aide. Donc, à ce moment-là, j'envisage d'arrêter progressivement la médication initiale, encore une fois, mais j'augmente la dose de lamborexant à 10 mg. Donc, ça, c'est dans un monde idéal, puis ça arrive quand même fréquemment, ce monde idéal-là, avec les patients. Donc, on réussit à complètement sevrer sur peut-être 1 mois, 2 mois, je suis jamais pressée, leur médication benzo ou Z-drug, et remplacée par le lamborexant. L'élément clé, je pense que c'est un suivi régulier du patient parce que ça nous permet d'ajuster la dose de médicaments puis de soutenir le patient dans ce changement-là pour qu'il préserve sa confiance dans son sommeil. Malheureusement, c'est sûr que certains patients qui souffrent de troubles de sommeil chroniques majeurs puis qui va être difficile de complètement sevrer, l'on parle du benzo, du Z-drug, mais n'importe quelle autre médication qu'ils utilisent pour leur sommeil. Fait que dans ce cas-là, ce que j'essaye de faire, je cherche à minimiser les méfaits. Hein. Vous parliez de la somnolence le matin, les risques de chute. Donc, j'essaie de minimiser ça en réduisant autant que possible la médication benzo ou la médication Z, tout en optimisant l'utilisation du lamborexant. Donc, par exemple, un patient qui prendrait du zopiclone 7,5 mg, je vais essayer de le diminuer au maximum, mais des fois, je vais finir avec un lamborexant 10 mg plus du zopiclone 2,5. Mais 2,5, c'est toujours mieux que 7,5 mg. Là. Donc, chez les patients un peu plus résistants.
C'est sûr que certains médecins ou spécialistes vont peut-être être effrayés en disant « faut voir, je revois mon patient souvent ». Oui, quand vous êtes en médecine familiale, c'est peut-être faisable. Pour d'autres, puis là, c'est l'éditorialiste qui parle, c'est facilement une tâche confiable à des pharmaciens de GMF ou communautaires lorsqu'ils sont formés.
Mm-hmm.
Parce que ça
je pourrais pas te dire mieux.
Moi, je pense que sinon, pour certaines personnes qui ont peu de temps, ça va les décourager, mais c'est une tâche confiable parce que ça demande quand même pas énormément de visites aux pharmaciens. C'est faisable. Puis en appelant le pharmacien, vous allez sûrement très souvent avoir une réponse favorable. Ils sont déjà très impliqués dans le sevrage des benzos et d'autres mm-hmm. médicaments. Donc, c'est une tâche confiable. Ça, c'est vraiment un partage interdisciplinaire du fardeau des patients. Donc, docteur Geoffroy, on aurait pu continuer très longtemps. On essaie de limiter nos podcasts à une durée acceptable pour les oreilles de nos participants. Je voulais vous remercier. Vous êtes vraiment un médecin d'expérience et je pense que ça va aider beaucoup de nos collègues à commencer à initier des nouveaux traitements en sommeil, puisqu'on a des médicaments faciles, efficaces et qui sont accessibles à nos patients. Alors, merci, docteur Geoffroy. À la prochaine. J'espère qu'on pourra se reparler dans le futur sur d'autres sujets. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je recommande à mes collègues qui écoutent le podcast d'écouter le premier podcast de la série et d'autres vont suivre aussi sur le sommeil dans les prochaines semaines. Je suis le docteur Claude Garceau. Merci de votre écoute attentive et à la prochaine.